Le premier passage, c'est tiré de Jean 19, Évangile de Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloé. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'il déposa Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. La deuxième lecture, c'est tiré de Matthieu 27, versets 62 jusqu'à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et le pharisien allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Lorsque nous lisons l'histoire de l'humanité d'aujourd'hui, nous pouvons savoir ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi et comment les choses se sont déroulés. Maintenant, nous vivons de l'autre côté de la croix du Christ, de sa mort et de sa résurrection, et nous avons la connaissance de ces choses, parce que la Bible nous raconte ces faits. Mais avez-vous déjà pensé aux disciples de Jésus-Christ? Quelle aurait été leur pensée depuis le vendredi soir et jusqu'au dimanche matin? Leur angoisse, le désespoir. Mais pourtant Jésus avait dit à ses disciples très clairement de son sort. En Marc chapitre 8, versets 31-32, nous lisons ainsi. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Je voudrais attirer votre attention sur la crise sanitaire causée par ce virus qui s'appelle le COVID-19, qui a aussi engendré une crise économique, une crise sociale sans précédent. Il me semble que nous sommes tout juste entrer dans un long tunnel et que personne ne sait où, quand et comment sera la sortie. Une fois que toutes ces choses seront terminées, ce sera inscrit dans l'histoire du monde pour des générations à venir. La Bible ne nous parle pas beaucoup sur ce qui s'est passé au jour du samedi. Le jour de sabbat juif commence au coucher du soleil du vendredi soir et se termine samedi au coucher du soleil. Et c'est pour cette raison que le juif ne voulait pas que le corps soit pendu sur la croix en vie. Les soldats romains ont brisé les jambes des deux brigands crucifiés avec Jésus pour accélérer leur mort. Mais quand ils se sont approchés de Jésus, il était déjà mort. On voit ici l'accomplissement de la prophétie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, 20, 21. Oui, Jésus était déjà mort. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17 à 18. Mais comme ces choses se sont déroulées ainsi, cela nous oblige à penser que le disciple de Jésus avait tout oublié. Tout ce que Jésus leur avait dit par rapport à sa mort et à sa résurrection, ils ont oublié tout ce que la parole de Dieu dit de lui, tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit sur le Messie. Quand on est envahi de la peur et de la frayeur, même nos mémoires nous abandonnent, n'est-ce pas? Où sont les disciples ce soir? Ont-ils oublié que ce que Jésus disait quand il chassait le vendeur du temple? Jésus disait aux Juifs, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Jean 2, 19 à 22. Regardons ensemble ces faits qui sont passés juste 2 ou 3 jours avant la mort de Jésus. Je lis de Marc, chapitre 14. Le 8 premier verset, la fête de Pâques et de pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à la table, elle tenait un vase à l'abattre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et irrité contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la, écoutez bien. Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de connaissance de Jésus et les femmes qui avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Mais vous savez, deux personnes sortent de l'ombre pour servir Dieu quand tous les autres semblent avoir abandonné. L'un s'appelait Nicodème, un pharisien, un docteur de la loi, chef de juifs, qui vient vers Jésus dans la nuit quand personne ne peut le voir. Voici cet homme sur la colline de Golgotha. venu avec un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et aloé pour l'ensevelissement du corps de Jésus. Un disciple secret dans l'ombre jusqu'ici, il se déclarait à présent ouvertement comme un disciple de Jésus. Mais à quel prix? À quel prix? L'autre était Joseph, un conseiller, un membre de Sanhédrin, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des Juifs. Un homme, la parole dit, un homme bon et juste. Il attendait le royaume de Dieu. Il était connu comme Joseph de Arimathée, qui était le disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec l'aromate, comme la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. William MacDonald écrit qu'en faisant ce qu'il a fait pour Jésus, il avait enterré sa vie. Il parle de Joseph d'Arimathée. Il avait enterré sa vie, sa position, son statut social et tout ce qu'il possédait. Quand les disciples et la foule qui se frappait la poitrine et pleurait sont tous rentrés chez eux, il était tétanisé de la peur, l'angoisse et la confusion. Les Juifs, les chefs religieux sont rentrés victorieux d'avoir fini avec Jésus. Et le gouvernement romain, lui, était tranquillisé par le fait qu'un tumulte parmi le peuple était terminé par la mort de Jésus. Tout semble être terminé. Les cris de joie et de célébration quand Jésus était entré dans Jérusalem, juste quelques jours avant, avaient cessé. Sans espérance dans leur cœur, le soleil s'est couché. Mais nous savons le reste, mes chers frères et sœurs. L'histoire de Dieu ne se termine jamais dans de tels centres. Nous savons que ce qui nous est révélé en Apocalypse, nous chanterons pour toujours la victoire de l'agneau qui sera sur le trône. Quand Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains et expira », la parole nous dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Cette image représente le fait qu'au travers de la mort de Jésus, un nouveau chemin est ouvert vers Dieu à tous ceux qui viennent à lui par la foi. En Hébreux 10, nous lisons ainsi. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen, au moyen de du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Nous allons rendre grâce pour ce moment que le Seigneur nous donne, même pendant cette période de confinement. L'Église de Christ s'est unie Plus que jamais, l'Église ne consiste pas en bâtiments, nos bâtiments sont fermés, mais le corps de Christ est uni plus que jamais. Nous remercions Dieu pour ce moyen technique qu'il nous donne pour être ensemble dans la communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs. Et nous louons Dieu pour sa bonté. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi. Seigneur, merci pour cette espérance que nous avons par ta résurrection. Seigneur, tu es mort pour nos péchés. Tu étais blessé pour nos iniquités. Seigneur, le châtiment de nos péchés est tombé sur toi. Seigneur, tu as tout subi sur la croix sans ouvrir ta bouche. Seigneur, même le Père, il a tourné son regard. Seigneur, car tu as porté tous nos forfaits et tous nos péchés sur toi. Seigneur, nous te remercions pour ton sang qui nous purifie de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, et qui est efficace même aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Père, pour ces instants que tu nous as donnés pour être avec toi et pour être avec tous nos frères et sœurs dans l'esprit. Seigneur, bénis chacun de ces membres, Seigneur, de ton Église. Seigneur, chacun, il souffre d'une manière ou de l'autre dans leur vie. Seigneur, nous te prions que tu gardes chacun de tes enfants. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui nous regardent ce soir et Seigneur, nous prions pour ces personnes aussi. Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Merci pour la paix que tu nous donnes dans nos cœurs. Seigneur, pour voir le jour de ta résurrection, pour chanter ta gloire, pour chanter avec joie que tu es vraiment ressuscité. Seigneur, merci parce que tu vis dans nos cœurs. Parce que tu vis en nous. À toi soit la gloire et l'honneur pour jamais. Amen.